Nicolas Badré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier de Nexans. On va parler avec vous des résultats et des perspectives pour l'exercice en cours. Comment s'est passé pour vous cette année 2012, compte tenu du contexte, dans vos différentes activités?
En synthèse, on peut dire que 2012 a été contrasté, avec d'un côté un certain nombre d'initiatives stratégiques qui ont été mises en œuvre, notamment l'acquisition d'Amercable aux États-Unis dans les câbles spéciaux, l'acquisition de Yanggu en Chine dans les câbles d'énergie pour infrastructures dans ce pays. On a lancé également la construction d'une usine de haute tension terrestre aux États-Unis. Voilà pour les initiatives stratégiques qui construisent l'avenir. À l'inverse, nous avons subi des difficultés opérationnelles, en particulier dans nos métiers de transmission, c'est-à-dire la haute tension sous-marine notamment, au premier semestre. Nous avons lancé rapidement un plan d'action d'envergure pour revenir à une situation plus normale. Et en fin d'année, effectivement, nous constatons sur le deuxième semestre une amélioration de marge, compte tenu du fait justement que cette activité se remet sur des rails plus acceptables. À l'inverse, les métiers de câble plus traditionnels ont subi un ralentissement dans un environnement détérioré, en particulier en Europe, au Brésil, en Australie. Environnement détérioré qui contraste par exemple avec le bon dynamisme qu'on continue à observer en Amérique du Nord.
Donc il y a toujours des questions liées à la compétitivité, à la valeur ajoutée des produits de Nexans dans cette période où il y a une concurrence qui est forte.
Alors la concurrence reste forte, bien entendu, avec des acteurs, je dirais, offensifs, des acteurs traditionnels offensifs, des acteurs nouveaux qui parfois sortent de leur territoire. Je sais que ça fait partie du jeu normal de l'industrie. Cet environnement nous pousse sans cesse à réfléchir sur notre compétitivité. Et aujourd'hui, nous avons bien conscience qu'il y a un enjeu de compétitivité très fort à adresser en Europe, en particulier sur deux secteurs industriels, la haute tension terrestre d'une part et les câbles industriels spéciaux d'autre part. Par ailleurs, nous pensons aussi que nous devons améliorer l'efficacité de nos fonctions de support, toujours en Europe, afin de rétablir une compétitivité de bon niveau, seule garante finalement du développement futur du groupe.
Vous avez également annoncé un plan stratégique 2015, hein, enfin il y a ce plan à horizon 2015. Là, vous espérez tout de même retrouver, on va dire, à cet horizon des marges dites normatives, hein, plus habituelles pour Nexans. Par quoi justement ça va passer concrètement, compte tenu de cet environnement européen qui reste, on va dire, déprimé, dégradé?
Nous avons essayé de faire l'exercice justement à isoconjoncture, c'est-à-dire en partant de l'idée que l'Europe reste un peu faiblarde sur les années à venir, en reconnaissant que la croissance dans les pays émergents va continuer à des rythmes intéressants. Et donc le plan stratégique que nous avons défini et validé avec le conseil d'administration vise à doubler le retour sur capitaux engagés, grosso modo doubler la marge opérationnelle à un horizon de 3 ans. On voit fondamentalement 3 leviers. Le premier levier, c'est de rétablir complètement la situation dans nos métiers de haute tension, notamment sous-marine, qui traditionnellement était le métier le plus rentable du groupe et qui a eu des vraies difficultés en 2012. Ce premier levier, ça représente 60 millions d'euros. 40 millions pour la remise, je dirais, à un niveau traditionnel, et puis 20 millions parce que c'est encore un secteur de très forte croissance. Donc non seulement de rétablir la situation ex ante, mais également d'accompagner la croissance profitable dans ce domaine. Ça, c'est le premier gros levier, 60 millions d'euros à horizon 3 ans. Deuxième gros levier, c'est renforcer notre compétitivité dans les pays matures et principalement en Europe. Je dirais que sur cette vision, nous pensons que nous devons délivrer 100 millions d'euros d'amélioration de profit. Et de façon un peu synthétique, je dirais qu'il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie qui est un peu courante de progrès continu, amélioration de la productivité, de l'efficience d'achat, de développement de l'innovation. Et il y a une autre partie qui est beaucoup plus structurelle. Et là, c'est adresser nos structures de production, nos fonctions de support. C'est l'objet de cette réflexion de retour à la compétitivité. Nous avons annoncé que notre objectif était de délivrer à terme 70 millions d'euros d'économies. Nous pensons qu'à l'horizon du plan stratégique, on aura délivré 40 à 50 millions. Encore une fois, c'est à l'étude, c'est un projet qui est qu'on le veuille ou non, de longue haleine, c'est-à-dire qu'il requiert beaucoup de préparation, de concertation pour une exécution, je dirais, à la fois rapide et satisfaisante pour tout le monde. Et donc la vision, c'est que l'exécution stricto sensu va nous prendre 2 ou 3 ans pour avoir le plein effet, un peu au-delà de la période de ce plan stratégique, mais en délivrant déjà de façon significative un profit à fin 2015. J'ajoute par ailleurs que nous avons également dans les moteurs d'amélioration de notre profit la croissance dans les pays émergents. On a mentionné tout à l'heure Shandong Yanggu en Chine, ça contribue de ce phénomène, mais nous comptons bien également continuer de nous développer en Amérique latine, au Moyen-Orient, Russie, Afrique et en Asie-Pacifique de façon générale.
Alors, on pourrait dire, et certains analystes le soulignent, certains concurrents sont déjà là, ont déjà fait cet effort-là. Comment vous allez faire justement dans la période? Là, vous donnez finalement aujourd'hui peu d'indications sur 2013. Ça reste un marché où il manque de visibilité, vos marchés manquent de visibilité aujourd'hui?
La manière dont on a voulu présenter aux analystes la situation de 2013 est la suivante. Plutôt que de dire, écoutez, ce sera 210 ou 228 ou 185, de dire, dans le fond, on a identifié des leviers positifs et des leviers négatifs ou d'incertitude. Je pense que c'est plus conforme effectivement à l'environnement dans lequel on évolue. D'un point de vue positif, il y a un certain nombre de tendances positives qui vont se poursuivre. Le rétablissement progressif de la haute tension sous-marine, c'est un fait, ça a commencé largement au deuxième semestre de l'année, ça se poursuivra. De la même manière, le dynamisme d'Amercable sur les câbles spéciaux pour oil and mining se développe de façon très satisfaisante. Nous ne voyons aucune raison que ça ralentisse. L'environnement en général en Amérique du Nord est positif. Et si je reprends la Chine, qui a été un peu déprimée depuis 2 ans, parce que nous étions bien orientés sur les métiers du ferroviaire, qui ont été arrêtés à la moitié de 2011, nous voyons de véritables opportunités de rétablissement, de retour à bonne fortune. Je dirais que ça, ce sont des éléments positifs assez certains, d'une certaine manière. À l'inverse, nous avons quelques incertitudes, et la principale d'entre elles, c'est l'environnement macroéconomique en Europe. La fin d'année a été difficile. Je dirais que c'était annoncé dès le mois de juin et on a vu effectivement un deuxième semestre difficile. Nous ne voyons pas aujourd'hui de signaux de reprise particulière en ce début d'année. Et donc, en fonction de la durée ou de la rapidité de la reprise, ça aura un impact évidemment fort sur notre rentabilité. Je pourrais faire le même commentaire sur le Brésil, pour des raisons assez similaires. Donc ça, c'est une grosse incertitude et c'est fondamentalement ça qui nous pousse à dire, bah, dans la balance, j'ai beaucoup de positifs à venir, mais j'ai aussi cette incertitude. Par ailleurs, nous avons quelques éléments structurels et le fait que nous développions nos activités à Yanggu, en haute tension notamment, et aux États-Unis dans notre nouvelle usine de tension, vont générer des coûts fixes supplémentaires, qui sont les coûts tout simplement de start-up de ces activités, qui n'existaient pas, ou en tous les cas pas à cette ampleur en 2012, qui existeront en 2013. Donc là, par contre, ce n'est pas de l'incertitude, c'est de la certitude de charges supplémentaires. Mais vraiment, pour simplifier, j'avais des bons dynamismes déjà constatés, et en face, une incertitude majeure sur l'Europe.
Sur votre marché, bien sûr, le marché du cuivre, hein, parce que vous êtes spécialiste de l'industrie du câble. Comment vous l'envisagez, ce marché du cuivre? On voit certaines matières premières effectivement à des niveaux assez élevés. Pour le cuivre, quelle est la tendance que vous envisagez et quel est l'impact pour vous?
Alors, sur la tendance du cuivre, d'abord un petit rappel sur 2012. En 2012, on a vu un marché très volatile du cuivre, à vrai dire. Ce n'est pas une anomalie, la plupart des années sont assez volatiles. Ce qui est assez remarquable, c'est que dans le fond, les cours du cuivre d'une année sur l'autre, quand on prend en moyenne, sur la moyenne des achats de cuivre qu'on a fait, étaient assez stables. Légèrement en retrait, en vérité. On était à 6 800 € la tonne en moyenne en 2011, on est passé à 6 600, je crois, en 2012. Donc finalement, une somme de volatilité qui s'équilibre sans dysfonctionnement majeur, sans dérapage ni à la hausse ni à la baisse majeure. Cela dit, ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé en 2012 que ça n'arrivera pas en 2013. C'est un sujet évidemment que nous regardons de près, mais nous avons une politique très particulière dans ce domaine. Nous sommes dans un système de couverture systématique à l'achat et à la vente pour neutraliser les effets des variations de cours du cuivre sur notre compte de résultat.
Mot de conclusion sur les devises, puisque là on parle de plus en plus de guerre des devises. Est-ce que ça vous êtes préparé, je dirais, justement, ça peut avoir un impact en 2013?
Alors, ça peut avoir un impact parce que si l'on regarde par exemple le cas de l'Europe, c'est 60% à peu près des ventes du groupe en termes de lieux de production et 50% en termes de lieux de vente. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu d'exportation et que le renforcement des devises européennes, euros et autres, n'est pas forcément en soi une bonne nouvelle pour le groupe. Bon, cela étant dit, je dirais que malgré tout, la plupart de nos marchés sont tout de même régionaux. Et donc, on a une protection relative contre cela. Donc, protection parce que les marchés sont régionaux, souvent parce que les spécificités sont régionales. Et donc, avant d'arriver à envahir un nouveau marché avec un produit d'un pays à devise affaiblie, ça prend quand même un peu de temps.
Bien, merci d'avoir fait le point avec nous, Nicolas Badré. On rappelle, vous êtes donc le directeur financier de Nexans.
Je vous remercie.